L'île au peuplier, un feuilleton radiophonique avec un promeneur, un philosophe, une torche, une question perdue, une nuit, une balade, deux époques, un temps à contre-temps, mais surtout, et c'est important, aucune réponse toute faite. Jean-Jacques Rousseau, toujours sous sa forme spectrale, accompagné par Julien, un visiteur qui se retrouve en cette nuit du 4 juillet 2015, enfermé dans le parc Jean-Jacques Rousseau d'Ermenonville, commence à mieux se connaître et à faire front commun pour retrouver la question perdue du philosophe, lors de son dernier repas. Après une discussion près du kiosque avec Julien, Jean-Jacques Rousseau entend comme un écho dans son souvenir le son d'un corps. Il se rappelle avoir vu un cerf près de l'étang au crapaud. Épisode 5, le cerf volant. Jean-Jacques, en route, l'étang au crapaud nous attend. Sur la carte, je vois que ce n'est pas tout près. Alors, son du corps, bois de cerf ou chance de cocu, allons voir si cela réanime vos souvenirs philosomaniaques. Je ne suis pas tout à fait certain qu'à ce stade de leur histoire, de leur balade nocturne, que Jean-Jacques Rousseau se sentait tout à fait bien. Pour un mort, j'entends. La lune continuait cependant de les éclairer. Ils avançaient un peu plus dans leur nuit. Mais le jour reviendrait. Jean-Jacques le savait, quant à Julien, il commençait à le craindre. Il pensa à ce moment précis, que cette nuit était extraordinaire, que personne jamais ne voudrait le croire, et que la seule satisfaction qu'il aurait serait d'aller au bout de la nuit, au bout du rêve éveillé, de retrouver la question perdue d'un des philosophes les plus illustres du XVIIIe siècle. Un cerf-volant. Quoi ? Un cerf-volant ? Voilà exactement ce que je me rappelle, ce que me rappelle le son du corps, Julien. Possible qu'il y ait bien eu chasse à cours ce jour-là. Possible que j'y ai bien vu de sinistres couards en panoplie s'acharner sur un superbe cerf. Mais plus précisément, je me souviens d'avoir vu voler un cerf volant. Un papillon, pour être exact. Un cerf volant, maintenant. Je ne voudrais pas être désagréable, hein, mais votre mémoire bat de l'aile, Jean-Jacques. Ce cerf volant me ramène tranquillement vers mes pensées, donc à ma question. Ce matin-là, après avoir vu voler ce cerf volant, j'ai pensé à Benjamin Franklin et à sa rencontre avec Voltaire, le 29 avril 1778. Voltaire est mort un mois plus tard, le 30 mai. Oui, d'ailleurs, parlons-en, car si je ne m'abuse, quand je fouille dans la mienne de mémoire, dans les restes poisseux de mon parcours scolaire, vous n'étiez pas en très très bons termes avec Voltaire. Il est vrai, une triste histoire quand on y pense. 1756, tremblement de terre à Lisbonne, querelle entre deux sots de philosophes, je vous passe les détails. C'est de l'histoire ancienne, très ancienne. Mais cependant, je suis physiquement mort à un mois et deux jours d'intervalle de Voltaire. Sa mort m'avait profondément touché. Je crois, Julien, que ce matin-là, dans le cerf-volant, laissant aller mon esprit au vagabondage, j'y ai vu l'expérience de Franklin. Son expérience sur la nature électrique des éclairs. J'espère que vos tristes années éducatives à l'école de la République vous l'auront appris. Cela me rappela ma colère envers Voltaire. En 1752, Franklin invente le paratonnerre. En 1756, moi j'aurais pu et dû dompter ma colère pour m'en protéger en quelque sorte. Inventer mon propre paratonnerre. Vous allez chercher loin vos conclusions, vous. Il n'y a pas à dire, un penseur vous l'avez été et c'est pas la mort qui vous a aidé à moins cogiter. Hein. Oh là 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 là. Certes, Julien, certes. Celle-ci, je vous l'accorde. Mais je dois retrouver ma question. Parce que c'est exactement cela qui arrêtera l'infernale machine. qui chaque année me ramène d'entre les morts et me projette en ces lieux. Je suis fatigué, Julien. Je cherche la paix. Je cherche mon paratonnerre. Ah, tenez, vous entendez? On arrive aux abords de la Nationale 30. Faut traverser. Faites gaffe à vous, les carrosses vont vite aujourd'hui. Je suis au courant, mon petit Julien. Cela fait maintenant quelques années que je reviens. J'ai eu le temps de m'habituer. Seulement, voyez-vous, mon enfant, je ne suis qu'une projection de votre esprit, un passant dans votre tête. Vous êtes une sorte de projecteur, un cinématographe humain ambulant. Vous déroulez le film. Comprenez, mon jeune ami, qu'il serait 100 fois plus prudent que vous fassiez attention. Car si l'un de ces engins que vous nommez automobile vous écrase, il m'écrase aussi. Le contraire ne serait que brume dans les phares, fumée de philosophe. Oui, c'est ça, faites le malin. Mais, attendez, vous voulez dire qu'il n'y a que moi qui puisse vous voir? Je suis revenu durant 237 années pour trouver mon paratonnerre, celui qui m'isole de ma propre foudre, celui avec qui le chemin de ma dernière matinée semble possible à remonter. Alors oui, Julien, vous êtes en ces lieux le seul et la seule attention des phares. Attention ! Oh ben merde alors ! Merci ! Et moi qui me croyais insignifiant ? C'est peut-être parce que vous l'êtes que la chose est rendue possible. Ah ben merci beaucoup Jean-Jacques, tout comme à l'école, vous m'aidez à croire en moi, vous. Mais ne vous fâchez pas, Julien. De vous à moi, je pense que vous êtes une bonne âme, un bon transmetteur. Il n'y a aucune friture sur vos ondes. Un crétin, quoi. Franchement, parfois, Oui, enfin, je me comprends. Bref, on ne doit plus être très loin. D'après mon plan, on arrive près d'une fabrique disparue, tombeau d'un enfant et de sa mère. C'est très gai par ici. Ça remonte les bretelles au moral, tiens. Faut continuer en direction de la maison du pêcheur. Vous venez, oui, ou... Merde. Le terme consacré à cette expression est merde, Julien. Oui ou merde. Comme cela, paraît-il, porte bonheur, eh bien, on continue. Ou plutôt, on marche dedans. Très drôle, très philosophique. Et voici donc tous deux longeant l'étang du désert, en direction de l'étang au crapaud et du cerf-volant. Celui-là même qui, dans la matinée du 2 juillet 1778, avait pu faire naître une question dans la tête de Jean-Jacques Rousseau. Une question dont il n'avait plus la moindre idée aujourd'hui. « Vous lambinez ! La nuit court, elle ! Faudrait voir à vous secouer la pendule, monsieur le franco-suisse ! Parce qu'à ce rythme-là, on recommence l'année prochaine, hein ! » Enchanté que vous soyez déjà prêt à recommencer, Julien. Mais soyez patient, ce n'est pas une de ces nuits sans lune où le temps file à grands pas. L'or des cieux nous accompagne. Cette nuit est sous le signe de la dualité. Votre nuit et ma nuit se mélangent, n'en font plus qu'une. Une nuit à rallonge, une nuit qui retient l'aube, qui s'étire lentement comme un vieux chat malade sur un coussin de plumes. Ah bon ? Les nuits à rallonge maintenant. Question rallonge, vous êtes sûr que vos lumières sont bien branchées là-haut? Mon cher Julien, j'arrive tout droit d'une époque où les nuits étaient éclairées à la lueur des chandelles. La lampe à incandescence n'était pas encore de ce monde. Mon rapport au temps et le vôtre tient à un simple bouton appelé « va et vient » sur lequel il suffit d'appuyer pour allumer ou interrompre la lumière. Permettez que je vous souffle les miennes, l'ami. Les effets de l'électricité statique et du magnétisme sont décrits pour la première fois en 600 avant Jésus-Christ par Tal de Millet. On doit le terme moderne d'électricité à l'anglais William Gilbert, qui distingue corps électrique et magnétique. 1663, Otto von Guericke construit une forme primitive de machine électrique, un globe de soufre en rotation. 1733, Dufay découvre les charges positives et négatives et observe leur interaction. 1750, via des expériences sur la foudre, Benjamin Franklin identifie l'électricité naturelle. 1799, Alexandro Volta crée la pile électrique. 1820, ça va ! N'étalez plus votre confiture sur ma tartine. J'ai saisi le concept espace-temps de notre nuit commune. Ça atteint mon petit sommet, merci. 1879, lampe à incandescence de Joseph Swan. Elle permet de produire de la lumière. L'homme en est-il plus éclairé sur lui-même? Réponse, non. Tout cela n'aura servi que les dérèglements climatiques. Alors, Julien, je vous pose la question. N'est-elle pas belle, cette lune qui nous éclaire? Vous m'emmerdez! Vous avez toujours réponse à tout, et quand vous ne savez pas, on a encore l'impression que vous êtes au courant. Au courant? Vous êtes si perspicace, mon petit râleur. Mais ne nous fâchons pas. J'ai plus besoin de vous que vous de moi. Je suis éteint, Julien. Vous êtes, pour ainsi dire, la pile qui me permet de fonctionner. Peut-être que grâce à cela, à mon corps électrique défendant, je pourrai enfin reposer en paix, loin de toute question, fût-elle incandescente. Ouais, vous retombez encore assez bien sur vos pattes pour un vieux chat malade. Mais si je réfléchis un peu, m'énerver après vous est un privilège que peu de mes contemporains connaîtront. Alors quoi, Julien? Bah alors, on continue. On va retrouver votre foutue question, là. Le bonheur, Julien, est un état permanent qui ne semble pas fait ici-bas pour l'homme. Tout est sur Terre dans un flux continuel qui ne permet à rien d'y prendre forme constante. Tout change autour de nous. Nous changeons nous-mêmes et nul ne peut s'assurer qu'il aimera demain ce qu'il aime aujourd'hui. Ainsi, tous nos projets de félicité pour cette vie sont des chimères. Profitons du contentement d'esprit quand il vient. Gardons-nous de l'éloigner par notre faute, mais ne faisons pas de projets pour l'enchaîner. Car ces projets-là, Julien, ces projets-là sont de pure folie.
L'île aux peupliers.
Feuilleton autour de Jean-Jacques Rousseau et du parc d'Ermenonville.
Un feuilleton écrit par Gontran Bodequin. Montage, Frédéric Gis.
Diffusé du 6 au 17 avril, du lundi au vendredi à 9h. Rediffusion et podcast sur notre site www.radio-valois-mulcien.fr.